7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Il y a des étiquettes que l'on a du mal à décoller, longtemps vues comme un sport violent, qui plus est un sport d'hommes. La boxe s'est hissée ces dernières années sur le podium des disciplines à pratiquer. Avec les Jeux Olympiques de Rio en 2016, la boxe a pris, aux yeux du grand public, le visage serein et souriant des jeunes champions français Estelle Mosselli et Tony Yoka, entre autres médaillés. Pourtant, la boxe, c'est aussi un univers sombre et pénétrant, avec ses histoires de douleur, de lumière, de misère, de gloire et de défaites, des destins cabossés qui parfois jouent leur vie sur le ring. Ils mettent leur hargne de s'en sortir à tout prix. Avec nous autour de ce plateau qui, le temps de l'émission, deviendra notre salle de boxe. Imaginez les cordes, les sacs de frappe, l'odeur rance de la sueur, les regards férocement déterminés et j'en passe, vous y êtes. Alors on y va, j'ai le plaisir d'accueillir Aya Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Boxeuse, championne du monde de boxe française en 99 et 2003, puis de boxe anglaise en 2006. Aujourd'hui, écrivain, Elie Robernicou, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez une ode à la boxe, enchaînement d'histoires noires et belles à l'image des boxeurs dont elle raconte la trajectoire. Scène de boxe, c'est le titre de votre livre. Vous qui avez toujours rêvé d'être boxeur sans avoir jamais pu passer à l'acte. Saïd Benajem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien boxeur professionnel et puis vous avez fondé le club Boxing Beats à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Un club avec une identité, un esprit bien particulier. On y reviendra. Vous avez notamment entraîné Sarah Ouramoun, championne du monde en 2008. Et puis nous serons également en compagnie de Patrick Mignon, sociologue du sport, qui nous rejoindra, qui est un petit peu en retard. Et vous, les voisins, les voisines, pratiquez-vous ou aimez-vous ce sport? Et si oui, pourquoi? Derrière les ecchymoses et l'image d'un sport de combat violent, quelles sont, selon vous, les valeurs transmises par ce sport qu'on appelle l'art noble? Et puis vous nous appelez aussi si vous avez des questions pour nos invités. On vous attend au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Et puis comme toujours, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et déjà, vous nous écrivez sur Facebook, les voisins, vous n'avez pas trop l'air fan de boxe, hein, a priori. Pour l'instant, c'était avant d'écouter cette émission. Page est à Pointe-Noire, en République du Congo. Je vous lis son message. Mohamed Ali prônait le respect, la tolérance et la liberté. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la boxe est surtout liée à l'argent et ne véhicule plus de bonnes valeurs comme auparavant. On a également Rodrigue qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin. La boxe est une exhibition de violence, rien de convivial. Voilà, un voisin qui reste à convaincre, on n'a pas trop d'une émission pour le faire. Mamie et lui à Dakar, je le cite, ce sport, tout comme la lutte au Sénégal, déferle les ferveurs les plus folles. Et puis, je vous lis le message de Mokhtar depuis Richard Toll au Sénégal. Il nous écrit, je ne connais pas grand-chose à la boxe, mis à part les directs, les esquives et les uppercuts, c'est déjà pas mal. Et puis, il continue, la vie a ses hauts, ses bas et ses vices, elle est un interminable combat de boxe. C'est la raison pour laquelle il faut savoir donner des coups, mais aussi en recevoir pour se forger un mental d'acier comme Mike Tyson ou Mohamed Ali. Quand on atteint ce stade de combativité, on sait voler tel un papillon et piquer comme une abeille. Mais tout de suite, reportage au cœur de la section savate du Paris University Club. La savate, c'est de la boxe française. Ici, on la pratique en compétition, mais aussi en loisir, de plus en plus. Le lundi soir, le club propose deux cours pour débutants, un mixte, et puis l'autre réservé exclusivement aux femmes, pour celles qui ne veulent pas s'entraîner avec des garçons. Une stratégie qui s'est révélée payante, puisqu'aujourd'hui, la moitié des licenciés de la section savate du club sont des femmes. Notre reporter Philippine Lebré a chaussé les gants pour se rendre au tout premier cours de la saison.
Alors, je suis Geneviève, donc je suis présidente de la section savate boxe française du PUC et donc je suis aussi la prof du lundi. Ça fait environ 5 ans qu'on a ce cours réservé aux femmes. On avait des cours mixtes et on se rendait compte que les filles ne restaient pas au cours mixte. C'est une question de gabarit. Effectivement, les garçons étant plus grands, plus forts, je crois que les garçons aussi, du coup, n'invitent pas forcément les filles sur un cours débutant parce qu'ils ont envie de se défouler un peu plus et qu'avec une fille, il va peut-être falloir faire un petit peu plus attention. Donc je crois qu'effectivement, c'était un petit peu difficile, si la fille n'était pas prête à encaisser peut-être un coup un petit peu plus fort, de trouver sa place dans un cours mixte. Donc on va s'y mettre. D'ailleurs, j'ai mis mes gants par réflexe, mais on va commencer sans gants. Voilà, pour commencer un petit peu, on est un sport d'opposition. Donc on est toutes les deux, on est quand même les mains un petit peu devant parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir aller toucher l'épaule de l'autre. Allez, vous vous mettez par deux. Allez, on bouge. Temps. Stop.
Tu peux me donner ton prénom ?
Fiona.
Et comment est-ce que tu as découvert la boxe ?
J'en ai déjà fait il y a 10 ans, donc voilà, je reviens aux sources.
Et là, on est dans un cours qui est réservé aux femmes, donc non mixte. Toi, c'est un choix que t'as fait ou c'est une question d'horaire ?
Non, c'est un choix. Je voulais que des femmes. Les hommes, ils peuvent être moins maîtrisés la force et du coup, ça peut faire mal. Et j'ai pas envie de me retrouver qu'un cocard ou je sais pas quoi.
T'as déjà boxé avec des hommes ?
Les cours que je faisais avant, ouais, c'était du mixte.
Et tu ressentais que parfois, la violence, elle n'était pas très bien maîtrisée ?
Ouais, ouais, ouais. Donc là, au moins, les femmes, on est tous pareils. On n'a pas trop de force. Enfin, on va pas se faire mal, quoi.
Alors on a appris ces deux premières techniques, donc les fouettés et les directs. Donc là on va se mettre un peu en situation, d'accord, et on va essayer de toucher l'autre. Ce qu'on veut c'est vraiment juste toucher, d'accord, mais on sait qu'on a des directs et des fouettés. Très léger, très détendu, faut être très détendu.
Je m'appelle Stéphane comme le prénom de garçon.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 45 ans.
Et vous aviez quelle image de la boxe avant d'en faire ?
Bah, évidemment, si on regarde l'image qu'on en a à la télévision de boxe où ils sont tous complètement KO et en sang, non, ça c'était pas forcément ce que je voulais, mais en même temps j'avais vu qu'on pouvait se défouler avec et que c'était très utilisé dans un côté plus ludique. Moi ça m'a pas fait peur. Et puis après, voilà, maintenant ici, l'idée c'est de toucher et pas taper en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de filles.
Je m'appelle Stéphanie, j'ai 24 ans.
Comment est-ce que tu es arrivée à la boxe ?
Je cherchais un sport pour me canaliser, me défouler, parce que j'ai toujours été un peu nerveuse et hyperactive, et notamment aussi prendre de l'assurance. Enfin, je suis partie des gens qui se font souvent emmerder dans la rue. Et je me suis dit que ça pouvait toujours servir et c'était vraiment pour réussir à me canaliser. Après, la savate, parce que je travaille dans la restauration et que ça reste une boxe qui est très respectueuse. Donc je travaillais pour des groupes de restaurants assez haut de gamme où je ne pouvais pas me permettre d'arriver avec le visage complètement abîmé. Déjà, quand j'arrivais avec les bleus sur les jambes, ils me regardaient un peu bizarrement. Donc si j'arrivais avec le nez cassé, je pense que ça ne pouvait pas passer. Donc j'ai choisi la savate pour ça et voilà.
Et donc pour toi, la boxe, c'est un instrument d'autodéfense ?
Je pense pas que si je me retrouve en face d'un mec qui arrive hyper gaulé, je pense que je serais pas très bien. Mais dans tous les cas, c'est vrai que si quelqu'un commence un peu à m'embêter, je vais le regarder et lui dire bah non. Alors qu'avant, c'était des choses peut-être que je ne faisais pas ou je réagissais, ou sinon je réagissais beaucoup trop violemment et maintenant c'est vrai que je ne réagis plus. De moi-même, je me sens moins agressée parce que peut-être que j'ai la capacité de peut-être mieux me défendre ou en tout cas de lui faire croire que je peux me défendre. Donc, il suffit juste que je le regarde et je passe à autre chose. Alors qu'avant, non. Avant, c'était vraiment nerveux. Et là, peut-être le fait d'avoir pris confiance en moi, d'avoir appris un peu l'histoire de la boxe, le respect qu'il y a dans cette boxe, automatiquement, je pense que oui, ça a joué sur moi. Vraiment.
Et tu disais donc que notamment dans ton travail, ils peuvent te regarder un peu de travers quand t'as des bleus. Quel regard portent les gens à qui tu dis que tu fais de la boxe sur le fait que tu fais de la boxe ?
Généralement, ils sont assez impressionnés. Parce que c'est vrai que je travaille dans des restaurants où on travaille en robe et en talons. Donc c'est vrai que j'arrive en robe, talons, maquillée. Et c'est vrai que quand je commence un peu à parler avec des clients et que je leur dis « bah si je fais de la boxe », ils sont toujours un peu étonnés. Il y a toujours ce réflexe de « oui, c'est une fille, elle fait de la boxe, bah c'est une fille qu'il ne faut pas embêter ». C'est vrai que c'est régulier, ça c'est régulier.
Et là, comment tu te sens ?
Bah bien, hein. La reprise c'est cool, ça fait du bien.
Ça t'avait manqué ?
Ouais, mais c'est un sport, c'est vrai que si on a commencé, je pense que c'est un sport, c'est compliqué d'arrêter.
La boxe, un sport qu'on a du mal à arrêter. J'imagine que vous êtes tous d'accord autour de ce plateau avec ce constat. Je vous ai vu réagir à l'écoute de ce reportage, Aya Sissoko.
En fait, moi j'ai été assez affligée par les propos de Geneviève. Enfin, j'ai trouvé qu'elle venait de renforcer un ensemble de stéréotypes qui ne sont pas valorisants envers les hommes.
La peur des coups portés par les hommes.
En tout cas, en supposant que les hommes étaient incapables de contrôler les coups. Et en plus, elle dit aussi dans la même phrase que les femmes... intrinsèquement, donc, ont un déficit physique donc qui nécessite justement la séparation des deux sexes.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Ah, je ne suis absolument pas d'accord. De toute façon, tout entraîneur vous dira qu'un bon boxeur ou une bonne boxeuse, justement, on les reconnaît parce qu'ils ont une maîtrise technique parfaite qui leur permet de retenir leurs coups.
Et d'ailleurs, de contrôler leur force, en fait.
De contrôler leur force. Et d'ailleurs, les entraîneurs sont là pour vérifier que la pratique est faite de manière à ce que les règles soient respectées.
Saïd Benajem, vous tenez particulièrement à entraîner des femmes. Vous leur avez même offert de votre club de pratiquer gratuitement, sans payer de frais d'adhésion. Pourquoi ? Pourquoi est-ce aussi important pour vous ?
C'est grâce à une rencontre que j'ai eue avec Sarah Oramoun, la vice-championne olympique en 1996, où elle cherchait un club de taekwondo, je lui ai proposé de faire de la boxe, le lendemain elle est revenue et puis elle est devenue 20 ans après vice-championne olympique, et je n'avais pas de priori à entraîner des femmes. Quand Sarah est arrivée, Karima l'a suivie derrière, et j'ai trouvé que les filles s'impliquaient beaucoup à l'entraînement, qu'elles étaient sérieuses, que quand elles avaient un objectif, elles mettaient tout en œuvre pour pouvoir y arriver, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un créneau intéressant, c'est une boxe qui me plaît. Je vais, avec Sarah, on a décidé de, pendant 3 ans, de faire l'inscription gratuite au club pour les femmes, pour développer ce secteur-là. Et j'en suis super fier, content. Et même si on m'a dit souvent, Saïd, t'es un club de gonzesses, j'ai dit oui, je le revendique et j'en suis fier.
Quelle est la proportion de femmes dans votre club ?
35-40% maintenant, depuis quelques années. Encore un peu plus maintenant qu'après les JO qui ont fait exploser les adhésions. Mais les femmes ont entièrement leur place. Et je tiens en plus qu'elles soient dans des groupes mixtes. L'apprentissage, c'est aussi une question de pédagogie des entraîneurs, d'amener la boxe de façon loisir, surtout quand on fait de la boxe loisir. C'est vraiment pas pour sortir du club avec des cocards ou autres. Tout le monde se maîtrise et ça se passe plutôt bien depuis près de 20 ans qu'on le fait à Aubervilliers.
Comment expliquer cet engouement qu'on sent plutôt récent de femmes, mais aussi d'hommes, pour la pratique de la boxe ?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de clubs se sont ouverts aux femmes depuis maintenant une dizaine d'années. Elles ont trouvé qu'elles pouvaient avoir leur place parmi les hommes, qu'elles pouvaient aussi mettre un direct du gauche, un crochet, faire une esquive. Il y a aussi eu des compétitrices, notamment Aya Sissoko qui a été championne du monde. C'était un éclair. Elle est arrivée au bout de quelques mois, elle est devenue championne du monde, championne d'Europe.
Des femmes qui
deviennent des modèles. Sarah Oramoun, Estelle Mosseli qui ont fait aussi des résultats. Et donc ça a libéré et puis ça a démocratisé un petit peu la boxe, et les filles se sont dit, moi aussi, j'ai pas peur, je peux y aller. Et puis peut-être pour celles qui veulent faire la compétition, devenir championne, et pour celles qui veulent faire du loisir, pratiquer sans danger.
Patrick Mignon, vous qui nous avez rejoint dans ce studio, bonjour. Comment expliquer le succès de la boxe aujourd'hui ?
Il y a de multiples raisons. Je crois qu'il y en a certaines, je viens d'arriver un peu en retard, mais j'en ai entendu certaines. Il est certain que pour tous les sports, le fait qu'il y ait des succès dans les grandes compétitions, ça joue énormément, ça attire. Voilà. Ensuite, si en plus dans un sport qui était masculin, viril, des femmes font de la boxe, ça aussi attire les jeunes femmes à faire de la boxe. Alors ça, c'est un succès qui est lié à la pratique compétitive. Il me semble aussi qu'il y a un autre aspect qui est important pour la boxe, c'est aussi le fait que c'est une pratique qu'on pourrait qualifier d'entretien, en quelque sorte, comme il y en a beaucoup d'autres. Certaines sont des pratiques plutôt douces, c'est-à-dire, du yoga, etc. Et d'autres sont des pratiques plus dures, qui engagent beaucoup plus, mais qui sont aussi des pratiques qui attirent, parce que finalement, il y a une forme de discipline, il y a un engagement physique, une variété d'exercices aussi. La boxe est aussi un sport de souplesse, donc voilà, c'est pas seulement un sport de coups, c'est aussi un sport de souplesse, et ne serait-ce qu'en s'entraînant et en participant un peu au rituel de l'entraînement d'une salle de boxe, du rythme d'une salle de boxe, c'est aussi quelque chose qui peut attirer, alors là on parlait des femmes, mais de façon générale, des jeunes gens ou même des hommes plus mûrs qui voudraient reprendre une compétition avec un petit peu plus d'exigence que leur footing ou le match de foot de temps en temps, vont effectivement être attirés par le fait de pratiquer la boxe.
Élie Robert Nicou, vous êtes passionné pour la boxe à une époque où elle faisait les gros titres, avec Mohamed Ali, Frazier et d'autres grands noms restés dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous a attrapé ? Qu'est-ce qui vous a captivé dans ce sport ?
En fait, mon père était boxeur professionnel et il m'emmenait voir des matchs de boxe à l'Élysée Montmartre. On regardait Ali Frazier, on regardait les matchs de Monzon, etc. Et mon rêve était, à moi, évidemment, de devenir boxeur. Mais lui, qui l'avait été professionnellement à une époque très très dure, fin des années 40, début des années 50, c'était une boxe très différente de maintenant, n'en voulait absolument pas pour moi.
Très violente.
Voilà, très violente. pas très technique, c'était plutôt de la bagarre, et surtout que c'était pas à New York qui boxait, c'était en Suisse. Donc c'est à une époque où les gens avaient à peine de radio, donc si on voulait aller voir un spectacle, par exemple, on allait voir un match de boxe, et si on était prêt à en prendre plein la figure à cette époque-là, on pouvait être boxeur professionnel.
Mais il ne vous a pas laissé donc, en pratiquer.
Voilà, il m'a interdit ça, et c'est une frustration.
Qui a aussi nourri votre passion. Voilà. Les voisins, les voisines, on vous attend au standard. Que vous évoque la boxe? Vous rend-elle indifférent? Peut-être qu'elle vous écœure ou qu'elle vous fascine? Quoi qu'il en soit, vous pouvez témoigner au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
Ah, 7 milliards le voisin.
C'est sur RFI.
Et nous sommes en ligne tout de suite avec un voisin, Osana, à Béboto, au Tchad. Bonjour Osana.
Bonjour Charlie et bonjour à vos invités.
Alors vous n'avez pas pratiqué la boxe, mais le karaté, on vous écoute.
Oui, moi je voudrais faire tout d'abord une petite comparaison entre la boxe et le karaté, qui sont tous les deux un sport de combat. Le karaté et la boxe sont des sports qui se pratiquent de manière similaire, au niveau des coups et même voir au niveau de la brutalité. Moi, j'ai fait le karatéka quand j'étais petit. Et comme tout sport de combat, j'ai voulu mettre en pratique ce que j'ai appris, surtout sur mes ennemis. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai eu un gros conflit avec une personne lorsque j'avais 16 ans. Et automatiquement, mon papa m'a interdit de faire le karaté parce que j'ai failli ôter la vie humaine à quelqu'un.
Au cours d'une bagarre?
Oui, au cours d'une bagarre. Comme en voulant mettre en pratique ce que j'ai appris au terrain, il a fallu que j'ôte la vie à mon ennemi. Alors, j'aimerais savoir pourquoi la boxe et le karatéka enseignent surtout la violence?
Merci Osana pour cette question. Élie Robert Nicou, on attache souvent la boxe à une image de violence.
Oui, c'est un sport
nouveau.
Violent, mais en fait, la violence, elle n'est pas dans la boxe. Pour les boxeurs dont moi j'ai parlé, même dans l'expérience de mon père, la violence, elle est dans le milieu dans lequel ils ont grandi. Et en fait, la boxe canalise, ritualise cette violence. Et moi, maintenant, je suis entraîneur dans une salle de boxe, je vois des jeunes gens qui viennent s'entraîner. La violence, elle est en eux, elle est dans leur milieu, et la boxe en fait autre chose. Elle en fait une technique, elle en fait un jeu, elle en fait un code avec un respect, etc. Et ces jeunes gens, c'est pas le badminton ou le ping-pong qui va leur permettre de trouver ce qu'ils trouvent dans la boxe, en fait.
Patrick Mignon, pourquoi la boxe a aussi longtemps été déconsidérée?
Était déconsidéré. Alors effectivement, la violence d'un combat, quand quelqu'un qui n'est pas boxeur ou il voit d'abord les coups portés, il voit le sang, il voit effectivement aussi toutes les conséquences que peut avoir une carrière professionnelle dans certains cas. Deuxième aspect déconsidéré aussi, parce qu'il y avait effectivement, il y a le milieu dont on vient et le milieu de la boxe. Et le milieu de la boxe, bon, c'est aussi un milieu qui a été pas mal travaillé par les affaires de corruption, le rôle de la mafia aux États-Unis. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui l'ont montré. Et donc du coup, quand les affaires viennent, ma foi, je veux dire, la boxe, on prend un coup, parce que du coup, le côté sport disparaît, parce qu'on a la question des arrangements, la question du trucage des matchs, etc. Donc tout ça sont des éléments qui vont déconsidérer la boxe. Bon, on voit bien, il y a assez régulièrement, c'est un petit peu comme la tauromachie, hein, vous avez comme ça des activités, et c'est une activité qui existe, et puis d'un seul coup, on va ressortir soit la souffrance animale, soit le danger, et donc faire état des blessures graves, des
matchs qui ont aussi jalonné l'histoire de la boxe.
Et qui disent, on pourrait peut-être interdire la boxe. Le thème d'interdiction de la boxe, c'est toujours quelque chose qui revient assez régulièrement.
Patrick Mignon, Aya Sissoko, Élie Robert Nicou, Saïd Benajem, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI pour parler de la boxe, des histoires sombres qui lui sont associées, mais aussi de celles qui inspirent et qui donnent espoir. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur le ring aujourd'hui pour assister à ce ballet des corps qui paraît simple, chorégraphié et qui pourtant ne doit rien au hasard. Ce n'est pas pour rien que la boxe est surnommée art noble, ce n'est pas pour rien non plus qu'elle inspire le cinéma, de Rocky à Raging Bull en passant par l'oscarisé Million Dollar Baby, devenue tendance au même titre que le crossfit et autres disciplines des salles de gym. La boxe ne risque-t-elle pas de perdre un peu de son âme sous le feu des projecteurs? Et si vous n'y connaissez rien, ce n'est pas grave, laissez-vous porter dans cet univers peu connu ou mal connu. Avec nous pour en parler, Élie Robert-Nicou, passionnée et auteure de Scènes de boxe, publiée tout récemment chez Stock. Aya Sissoko, grande boxeuse, championne du monde de boxe française et puis de boxe anglaise, aujourd'hui écrivain. Saïd Benajem, entraîneur et fondateur du club Boxing Beats à Aubervilliers, en région parisienne. Et Patrick Mignon, sociologue du sport. Alors, la boxe nous vient de l'Antiquité, hein, c'est loin d'être une discipline récente. On l'appelait alors le pugilat. Si on précisait un petit peu les règles, rapidement, de la boxe anglaise, hein, celle qui est peut-être la plus connue pour les voisins, les voisines, qui ne seraient pas des spectateurs assidus de boxe, Saïd Benajem.
Alors, contrairement à beaucoup de boxe, la boxe anglaise, c'est la seule discipline olympique de toutes les boxes. C'est une boxe où on n'a pas le droit de toucher son adversaire avec les pieds, on n'utilise que les poings et les déplacements avec les jambes pour les déplacements. Et il y a des zones de frappe bien délimitées qui sont au-dessus du bus, la tête du bas du bus jusqu'à la tête. Les coups derrière la tête sont interdits. Il y a des zones de frappe avec les gants qui sont autorisées, c'est la tête des métacarpes vers l'avant. Et puis il y a un règlement aussi qui protège les boxeurs, notamment qui est très strict en boxe éducative chez les enfants. Et qui est pas moins strict chez les amateurs, mais qui est aussi encadré chez les amateurs. Donc jusqu'à ce niveau, on boxe avec des casques. Et chez les professionnels, on boxe sans casque. Et chez les amateurs, passé 6 combats, on peut enlever le casque. Mais c'est une discipline d'abord olympique. On a eu la démonstration olympique avec les Jeux Olympiques de Rio avec 6 médailles. Et c'est un des premiers sports d'ailleurs à avoir intégré les Jeux Olympiques, à la création des Jeux Olympiques.
Aya Sissoko, comment vous est venue la passion de la boxe dès l'école primaire, il me semble?
Ça a commencé par hasard à l'âge de 8 ans, en 1988. J'arrive dans le 20e arrondissement et ma mère qui travaille de nuit a besoin de savoir où sont ses enfants pendant qu'elle travaille. Je me présente, donc elle se présente devant le professeur de gym qui propose la boxe française dite aussi savate. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc elle ne voudra pas au début. Elle dira « Ma fille fera tout, sauf de la boxe, et je ne sais pas pourquoi, je réponds si je veux faire de la boxe. » Et l'aventure commence comme ça. Et donc, pour en revenir justement, enfin pour contredire un peu tout ce qui s'est dit auparavant, c'est que la boxe est une formidable école de la vie. C'est un sport qui est formidable. Moi, quand j'arrive à 8 ans, je suis très en colère. Je suis vraiment très en colère. Et j'ai trouvé un espace où je vais pouvoir exprimer cette colère, mais de manière très saine. C'est-à-dire avec un adulte qui va m'entourer, qui va m'expliquer que certaines choses, on a le droit de faire certaines choses, d'autres sont interdites. Je vais apprendre à vivre en groupe, toujours avec le respect des règles. Je vais apprendre à connaître mon corps aussi, parce que mon corps aussi devient aussi mon outil de travail. Donc je vais apprendre à le connaître, à l'écouter. Je vais aussi apprendre à avoir confiance en moi. C'est-à-dire que très vite, je m'entraîne avec les garçons.
Et contre quoi vous étiez en colère auparavant?
Mais parce que l'injustice, parce que je viens d'un milieu pauvre et que je me rends compte que le monde est fait d'injustice, qu'on n'accède pas aux mêmes chances quand on est né dans un quartier pauvre et qu'on est noir, que ma mère travaille énormément et qu'elle ne compte pas ses heures pour nous élever dignement. Donc voilà, tout un ensemble de faits qui font que à 8 ans, on est déjà en colère. Et je vais rencontrer ce vieil entraîneur qui va m'apprendre justement à transformer cette colère en quelque chose de positif.
Élie Robert-Nicou, vous écrivez dans votre livre « Le but de la boxe, c'est de s'affranchir de son enfance et de l'endroit où elle s'est déroulée. Il vaut mieux pour ça avoir été un enfant malheureux ou un enfant abandonné. » Puis un peu plus tard, vous écrivez aussi « Avec la boxe, on quitte les quartiers où l'on a grandi et qui ne sont rien d'autre que de grands orphelinats. » Qu'est-ce que ça vous évoque, Aya Sissoko, que je vous vois hocher la tête?
Je le rejoins totalement dans ses propos. De toute façon, de la boxe, c'est pénétrer déjà un autre monde. Un autre monde. Je défie quiconque d'aller dans une salle de boxe et d'y trouver des espèces de séparation. C'est-à-dire que le débutant et le professionnel, le boxeur confirmé, se côtoient. Il n'y a pas de séparation. Quand on pénètre dans une salle, dans une vraie salle, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se respecte, tout le monde a conscience que c'est un sport très difficile et que seuls les plus courageux, les plus vaillants peuvent le pratiquer. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette solidarité du lieu d'origine.
Vous sentez cette solidarité. On sent vous entendre qu'il y a une rage aussi, plus qu'une colère. Est-ce que ça vous a aussi porté au début?
Au début, bien sûr que ça me... Honnêtement, je pense que tout boxeur, en tout cas, qui décide de faire la compétition, on ne devient pas boxeur par hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose vraiment qui boue en vous, qui vous emmène à pratiquer ce sport.
Et lire Robert Nicou, c'est aussi ce que vous racontez dans le roman, de grands boxeurs qui ont aussi eu des histoires difficiles, compliquées.
Absolument, et d'une certaine manière, c'est la boxe qui les a choisis. Je pense à Barney Ross, par exemple. Pour eux, souvent, le football, c'est un rêve de gosse. On dit, je veux devenir, gagner le championnat du monde et tout. Par exemple, Barney Ross, lui, son père a été tué dans un hold-up. Sa mère devient folle, elle met ses enfants à l'orphelinat. Et lui se dit, il a grandi dans les ghettos, dans le ghetto juif de Chicago. Il se dit, qu'est-ce que je sais faire? Tout ce qu'il sait faire, c'est se battre. Donc, il va entrer dans une salle de boxe et il veut faire de la boxe pour sauver, pour retirer ses frères et sœurs de l'orphelinat. Il s'est jamais dit, je veux devenir boxeur, en fait. Et souvent, la boxe choisit les boxeurs.
Et souvent aussi, ils n'aiment pas forcément la boxe.
Il y a beaucoup de boxeurs. Alors là, je parle de boxeurs professionnels, jusqu'à Golovkin, qui vient de faire un combat là contre Alvarez, qui disait dans une interview, je n'aime pas le combat. Est-ce que vous aimeriez des coups de poing dans la figure? Vous aimeriez vous casser les mains? Je n'aime pas le combat, mais je le comprends.
Ah, Yassi Soko, vous l'aimez le combat?
Mais en fait, la boxe m'a permis de me rendre compte que j'étais forte. Et c'est cette impression, moi, qui était importante. Moi, c'est l'avant-combat. Enfin, tout se jouait dans l'avant-combat. C'est cette capacité à dépasser la peur. Je veux dire, avant de monter sur le ring, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'inflige tout ça? Ça n'a aucun sens. Et c'est le fait de pouvoir dépasser tout ça, de rentrer dans un état de concentration tel pour pouvoir affronter l'adversaire qui est bon. Mais ce n'est pas le combat en lui-même.
Saïd Benajem ne devient pas boxeur qui veut.
C'est vrai, moi, je dis toujours que ne devient pas un boxeur qui veut. Quand vous dites que c'est la boxe qui nous a choisis, c'est vraiment je crois que c'est la boxe qui choisit celui qui monte sur le ring et qui accepte de prendre des coups et d'en donner. C'est aussi difficile d'en prendre que d'en donner, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne nous a rien fait. On est sur un sport qui est très codifié, mais il va y avoir un échange de coups. Moi, ce qui m'a plu dans la boxe, c'était cette façon de vouloir esquiver les coups, m'amuser sur le ring, travailler sur un espace restreint et puis jouer un petit peu au chat à la souris. J'ai jamais eu de haine contre mes adversaires, j'ai jamais eu de colère face à mes adversaires et j'ai pas fait de la boxe parce que je venais d'un milieu populaire avec des parents prolétaires. J'ai fait de la boxe parce que ce sport me plaisait, la gestuelle me plaisait et je m'y suis senti bien tout de suite. Je faisais du foot à l'époque et un mercredi après-midi, j'ai pas voulu aller à l'entraînement de foot. Un pote à moi m'a proposé de venir à la boxe. Et quand je suis rentré dans cette salle du 19e arrondissement, il s'est passé quelque chose. L'entraîneur m'a regardé, son regard, alors qu'il ne m'avait jamais vu boxer, en a dit long. Le lendemain, je suis revenu et quelques mois après, j'étais sur le ring avec 19 de tension. Mais en même temps, une fierté, parce que j'ai gagné ce combat-là. Et ce n'est pas que ce combat que j'ai gagné. J'ai gagné la confiance, j'ai gagné aussi une certaine force qui peut-être me manquait quand j'étais plus jeune et qui m'a permis, parce que j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 18 ans et donc j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire ou aller, et là j'avais quelque chose enfin devant moi qui pouvait me rendre heureux.
Quelle valeur transmet ce sport, Patrick Mignon?
Je crois que c'était assez bien expliqué. Les valeurs
Rapport à d'autres sports.
Par rapport à d'autres sports. Alors, tous les sports revendiquent de transmettre très fortement des valeurs et de supposer que les gens, quand ils le font, vont se découvrir eux-mêmes, vont apprendre effectivement à contrôler leurs émotions, vont apprendre le respect de l'adversaire. Tous les sports, pour peu qu'il y ait une notion d'engagement physique. Je pense par exemple en rugby, vous avez ce type de discours aussi qui existe. Alors, qu'est-ce que la boxe a de spécifique? Je crois qu'elle a de spécifique le fait qu'effectivement, elle doit... Peut-être pas dans les années 20 ou 30 ou jusqu'aux années 40, où d'une certaine manière c'était un spectacle populaire reconnu, où là effectivement d'une certaine manière on attendait ce combat, le spectateur, l'amateur de boxe. Dans notre période contemporaine, c'est plus compliqué parce qu'effectivement elle a à se confronter à une histoire, à des représentations, à des préjugés, et de ce point de vue-là, c'est c'est effectivement ce qu'elle fait, c'est qu'elle démontre, elle cherche à démontrer, et elle le démontre effectivement, qu'elle a cette capacité dans un sport très très violent de surmonter cette violence, parce que de faire comprendre que ce qu'on appelle violence, c'est en fait quelque chose qui est à la fois social et quelque chose qui est profondément codifié dans le cas de la boxe, et donc qui n'est pas du tout une violence gratuite. C'est pas le pancras, hein, c'est pas le voilà, par rapport à l'antiquité grecque, et donc ça, ce sont ces valeurs là effectivement que la boxe aujourd'hui peut remettre en avant, à la fois la question milieu social, environnement social, c'est très 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 important, ça demeure, et cette espèce de pacification en quelque sorte de la violence que le milieu social peut produire.
Élie, Robert Nico, il y a eu aussi à travers l'histoire de la boxe le danger, les blessures, hein, les traumatismes cérébraux, et pire encore, vous écrivez qu'il y a eu plus de 2000 morts sur les rings au total, 2000 fantômes qui reviennent hanter les champions dont vous parlez, qui ont porté le coup fatal.
Oui, il y a beaucoup de champions qui ont tué des gens sur le ring et qui ont été hantés notamment par Max Baer. Max Baer a tué un adversaire qui s'appelait Campbell, en fait, qui en fait était italien, et toute sa vie, et à partir de ce moment-là, il s'est mis à faire le zouave sur le ring. Mais il se réveillait la nuit, il se repensait à Campbell, il pleurait, il appelait sa femme au milieu de la nuit pour se faire pardonner, il finançait secrètement, sans que ça sache, les études de ses enfants, et il y en a eu beaucoup, par exemple Emile Griffiths qui était homosexuel et qui avait tué Kid Parrott sur le ring, et là encore c'est une autre boxe hein, dont on parle, mais qui avait eu cette phrase absolument fabuleuse. Il disait, parce qu'il était homosexuel, son adversaire s'était moqué de lui, il l'avait mis à terre, avait pris des poses efféminées, etc. Il l'avait coincé, il l'avait mis dans le coin, il n'avait plus pu s'arrêter, l'arbitre était resté figé, et Kid Parrott était mort. Et Emile Griffiths a eu cette phrase extraordinaire, il disait « Je tue un homme sur le ring, tout le monde m'admire, j'aime un autre homme, tout le monde me condamne.
» Des mots effectivement assez crus, assez durs. Aya Sissoko, vous avez dû arrêter la boxe en professionnel suite à une blessure. Comment vous l'avez vécu, le fait de devoir arrêter?
Sur le coup, très très mal. Très très mal, parce que, comme je disais, c'était un sport qui m'accompagnait depuis 20 ans, qui rythmait mon quotidien, enfin ma vie. Et je vais utiliser même le terme d'addiction à cette discipline. Et donc quand on vous retire cette substance de manière aussi violente, on le vit très 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 mal. Mais voilà, j'ai la chance aussi de m'être nourrie d'autres choses que la boxe, parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui réfléchissent, énormément de boxeurs qui réfléchissent, qui sont capables d'autre chose que d'utiliser leurs poings. Je prends l'exemple aussi de Sarah Oramoun, d'Estelle Mosley, et autres qui ont une carrière très très riche en dehors des rings.
Sarah Oramoun a lancé une entreprise.
Exactement,
parce
qu'elles ont fait des études, parce qu'elles avaient aussi d'autres exutoires.
Vous aussi, vous avez fait des études d'ailleurs.
Et oui, j'ai fait des études, j'écris, donc on a d'autres exutoires aussi en dehors du ring. Donc voilà. Il a fallu effectivement opérer cette espèce de transfert entre une discipline qui prenait énormément de mon temps et une autre.
Une autre à laquelle la boxe, vous avez ouvert certaines portes.
Oui.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Arrivés sur le ring, on enfile les gants ou plutôt les quatre boules de cuir. Tout de suite, c'est Claude Nougaro sur RFI.
Je gouttes qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Tac, cinq, six, sept. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on dépend de mes mains. Petite marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ok, c'est le pied, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Dans une maison blanche, oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points. Même si dans les coins, box, box, j'y vois son corps luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
Vous l'écrivez dans vos scènes de boxe, Élie Robert Nicou, la boxe, pour vous, c'est comme un morceau de jazz. Qu'est-ce qui rapproche
Pour moi, rien ne ressemble à un match de boxe autant qu'un autre match de boxe. Et pourtant, à chaque fois, c'est différent. Parce que pour moi, un boxeur raconte son histoire quand il boxe sur le ring, en fait. Il raconte ce qu'il est dans sa façon de boxer, dans sa façon de bouger, etc. Et un jazzman va vous prendre, par exemple, Summertime, n'importe quel standard, et va à chaque fois vous le jouer différemment. Et en plus, aux États-Unis, c'est des milieux qui communiquent, qui se touchent. Duke Ellington était dans le coin de Joe Frazier quand il se battait contre Ali. Miles Davis était dingue de boxe. Ce sont pour moi des univers et des histoires qui se ressemblent.
Qui peuvent se rapprocher. La boxe, ce sont aussi, vous le racontez dans le livre, des histoires de relations parfois tendues entre père et fils, fils qu'ils peuvent entraîner. Un père boxeur qui continue en fait de vivre sa passion à travers son fils. Vous racontez par exemple l'histoire de Floyd Mayweather, dont on a entendu parler récemment.
Oui, c'est une histoire incroyable. La boxe est beaucoup une histoire de filiation. Il y a beaucoup de pères en boxe. Il y a celui qui dira, comme le mien, toi tu ne boxeras jamais. L'autre qui dira, toi tu boxeras à ma place. Et qui va se mettre dans le coin de son fils, qui n'est pas toujours une bonne chose. Et c'est le cas de Floyd Mayweather. Parce que son père était un boxeur, il était le sixième mondial. Il a été blessé parce qu'il était marchand de drogue. Il était dealer, il a été blessé au mollet par son beau-frère, et donc il a dû inventer une technique de boxe spéciale, le shoulder roll qu'utilise Mayweather. Surtout, il a pris son fils quand Baboon et son beau-frère est venu le flinguer, en le mettant devant lui pour servir de bouclier. Parce que c'est incroyable, ça marque un enfant, j'imagine. Et après, il est devenu l'entraîneur de son fils. Il s'est engueulé avec son fils, c'est l'oncle qui a pris le relais. Pendant que le père allait en prison, le père sort de prison, reprend les rênes. C'est une histoire, c'est les Atrides dans le monde de la boxe.
Des histoires complexes où effectivement on retrouve souvent la figure d'un père. Saïd Benajem, on dit que la boxe permet de canaliser les énergies, d'éviter parfois de recourir à la violence en dehors du ring. Beaucoup voient d'un bon œil l'ouverture de salles de boxe, notamment dans les quartiers. Quel regard vous portez là-dessus ?
Je dis souvent qu'on ne peut pas régler les problèmes de la société avec la boxe, avec des coups de poing. Le problème n'est pas là. Je pense que la boxe, elle nous sert aussi à prendre confiance en soi et pouvoir apprendre du recul sur certains problèmes qu'on peut rencontrer. Et surtout, elle nous permet aussi de savoir qui on est et jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut placer la barre. Moi je peux être un exemple en disant que moi, la boxe a changé ma vie. À un moment donné, j'habitais dans une cité dans Paris. J'avais l'école pas terrible. J'avais deux voies, la délinquance ou la boxe. Tous mes copains m'ont poussé à la... Ils m'ont vu boxer une fois ou deux. Ils m'ont tous poussé à la boxe. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai pu construire, je le dois beaucoup à la boxe. Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais de quoi t'as peur dans la vie quand tu prends des coups dans ta gueule sur un ring? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui est plus fort que de prendre des coups sur un ring? Le reste, pour moi, après, ça a été facile. j'ai transféré tout ce que j'avais appris dans la boxe, dans mon quotidien. Je disais, hier j'ai gagné un combat, demain je peux me lever le matin pour aller chercher du boulot, je peux reprendre les études, ça m'a construit et j'espère que ça aide à construire des jeunes. On a réussi à sortir quelques jeunes de certaines situations, de certaines galères. On ne les sortira pas tous. Mais en tout cas, s'il y en a deux, trois avec qui la boxe peut marcher, c'est intéressant.
Et vous tenez à ce que les élèves de votre club de boxe aient de bons résultats en classe. Et vous proposez même dans votre club à Aubervilliers des cours de soutien scolaire. Pour vous, c'est important de maintenir un lien avec ces jeunes.
Moi, ce qui m'a manqué, j'ai eu une vie heureuse. J'ai pas été riche, j'ai pas été non plus complètement prolo, ça allait plutôt, j'ai travaillé très jeune. Mais une chose qui m'a manqué, c'est les études. J'ai arrêté les études très tôt. Et au moment où j'ai monté le Boxing Beat, j'ai ressenti que j'avais du mal à monter mes projets, à les écrire, à exprimer ce que je voulais sur papier. Je peux vous raconter mon histoire comme ça, mais sur papier, c'est plus compliqué pour moi de l'écrire. Et quand j'ai monté Boxing Beat, il était hors de question pour moi que je monte juste un club de boxe. Je voulais former des boxeurs, mais aussi des hommes et des femmes, et des gens qui peuvent s'épanouir et trouver un chemin. Donc, pour moi, c'était important de mettre ce projet avec Sarah en place.
Sarah Ramoun,
de mettre un projet de boxe de soutien scolaire, parce que on ne peut pas être un bon boxeur. Les boxeurs sont intelligents. On ne monte pas sur un ring de boxe si on n'est pas intelligent. On parle de stratégie, de tactique, d'esquive, de pas de côté. Et l'école, pour moi, c'est aussi... La boxe, c'est aussi l'école de la vie. L'école, comme l'a dit Aya tout à l'heure, c'est aussi l'école de la vie. Et le savoir lire, compter... Et j'oublie un.
Écrire.
Et écrire, c'est pour moi vachement important.
C'est
et ça permet aussi à des gamins de prendre confiance en eux dans un endroit où ils pratiquent de la boxe. Et puis, ils sont encadrés en même temps par des jeunes, par des gens, des bénévoles qui viennent les aider aussi scolairement. Donc, pour moi, c'est important.
Aya Sissoko, j'aimerais vous faire réagir à un passage du livre, encore une fois, d'Elie Robert-Nicou, décidément inspirant. Je vous le lis. On entend sans cesse ces histoires de boxeurs qui reviennent dans leur quartier pour montrer aux gamins ce qu'ils sont devenus, comment on peut réussir à force d'efforts, de discipline et toutes ces choses que la boxe impose, effectivement. Mais en fait, ils viennent dire aux gosses du quartier qu'il faut s'en aller. Vous êtes d'accord? L'idée de s'extirper par la boxe.
Moi, j'ai jamais considéré la boxe comme un moyen de m'élever socialement.
D'ascenseur social.
Jamais. C'est-à-dire que moi, la boxe, je la vivais à l'instant présent. Je n'ai jamais fait de projection. Après, ce qui est important de dire, c'est effectivement ne jamais oublier d'où l'on vient. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que je reviens en permanence dans mon quartier. Je suis passée de la rive droite à la rive gauche. Ce n'est pas grave, mais je reviens et je suis très heureuse de revenir voir les gamins de mon quartier. Et d'ailleurs, au-delà de leur dire fuyez de là où vous êtes. Non, construisez là où vous êtes.
Et battez-vous.
Oui, mais construisez surtout là où vous êtes. Ne fuyez pas. C'est peut-être construisez sur place. C'est ce qui est important.
Elie Robert-Nicou, on arrive à la fin de cette émission. Comment voyez-vous ce récent succès de la boxe, alors pratiquée en amateur? Et n'avez-vous pas peur, et là je vous pose la question à tous, qu'elle perde ses valeurs et un peu de son âme?
Je ne sais pas. Je pense que le succès, il y a aussi une sorte de fascination inexplicable pour la beauté, pour cet enchaînement de gestes, ce ballet.
Le nombre d'auteurs qui ont écrit sur la boxe. Oui. La boxe est un sport qui véhicule tellement de fantasmes. Et puis c'est un sport aussi qui exprime tout ce que nous, on est incapables, enfin tout ce que beaucoup sont incapables de faire. Oui. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fascine autant.
Oui, et on est fasciné par la légende, parce que même aussi tout ce qu'il y a de sombre dans la boxe me fascine et pour moi ajoute à sa beauté, comme quand on va voir une tragédie, on sait que ça va finir mal, mais c'est pas grave, on reste capté, oui, et tout est exacerbé dans la boxe.
Patrick Mignon, quel avenir prédire à la boxe?
Il peut être compliqué puisque c'est très polémique, la boxe, donc voilà, ça peut être compliqué. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien.
Je
pense que la boxe, comme beaucoup de sports, doit affronter ce qu'on lui reproche. Voilà, c'est ça.
Mais
voilà.
On pourra interroger interdire la boxe, on ne pourra jamais interdire les boxeurs.
Ah non, mais c'est, voilà. De fait, ça c'est un. Maintenant, il y a deux choses. Quand on parle de boxe, en fait, il y a un peu trois. J'irais trois niveaux. Il y a la boxe spectacle et qui effectivement génère toute une série de discours, de fascination ou de condamnation, tout ce qu'on voudra.
Et beaucoup d'argent aussi.
Et beaucoup d'argent aussi.
Pas pour tous les boxeurs.
Oui, mais
non, mais ça dépend où, sur quel continent on est.
Aux États-Unis, c'est justement très très.
Enfin, je pense que les boxeurs professionnels ne gagnent même pas le centième de ce que gagnent certains boxeurs.
Aux États-Unis.
Ah oui, non, c'est pour ça que.
Mais par contre, le boxeur qui gagne le championnat du monde toute catégorie une année, c'est celui qui est le premier des revenus sportifs. Mais ça ne dure qu'un an, ça dure l'année du combat.
Où? Alors. En France, pas en France. Ah non,
mais non,
parce que là, vous.
Alors,
on va pas rentrer dans le débat maintenant.
Je dis, quand on prend, c'est ce que vous disiez. Et deuxièmement, il y a la boxe amateur, celle qui, effectivement, et celle notamment qui se pratique à l'INSEP, celle qui prépare les Olympiques, qui est un autre niveau de boxe. Et troisièmement, il y a ce niveau qui est effectivement actuel, c'est-à-dire, à savoir, cet engouement de gens qui sont peut-être fascinés, par les combats et par le drame de la boxe dont on a parlé.
Mais au-delà de ça, c'est même pas cette fascination, c'est juste que maintenant on est dans une société qui est de plus en plus exigeante envers les hommes et les femmes, enfin qui veut des hommes de plus en plus performants.
En tout cas, la boxe continue de faire parler d'elle. Merci à vous, Aya Sissoko, Elie Robert Nicou, Saïd Benajem, Patrick Mignon. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. À bientôt.